Allez, on va rentrer maintenant dans le message, dans cette série que nous avons débutée la semaine dernière avec le pasteur Romaric qui s'intitule « Je choisis ». Je choisis. Et j'aime cette pensée. En fait, ça fait deux semaines parce que pasteur Gérard aussi a prêché sur ça. Mais j'aime cette pensée que nous avons des décisions à prendre dans la vie chrétienne et que la vie chrétienne, ce n'est pas juste, des choses qui nous sont imposées, mais c'est une suite de choix aussi que je fais. Et ce matin, je veux parler avec vous d'une thématique qui est très simple, mais c'est pour ça que je prie que le Saint-Esprit m'aide à la partager avec vous. Ça s'intitule « Je choisis de rester dans la grâce de Dieu ». Est-ce qu'il y en a qui peuvent dire merci à Jésus pour sa grâce ? Amen. Est-ce que tu peux dire à la personne à côté de toi, dans ton groupe de maison, « Tu es béni parce que Jésus t'a offert sa grâce ». Tu es béni parce que Jésus t'a offert sa grâce. Et la grâce de Dieu, c'est tellement fondamental, tellement puissant, tellement précieux. Vous savez, on ne peut pas, et tu ne peux pas croire que c'est quelque chose de plus, que c'est juste un sujet parmi d'autres. La grâce de Dieu, ce n'est pas un sujet. La grâce de Dieu, c'est le sujet. La grâce, ce n'est pas un élément parmi d'autres dans ta vie chrétienne. La grâce, c'est l'élément central qui fait qu'on est là aujourd'hui. C'est l'élément central qui fait que je peux dire que je suis chrétien aujourd'hui. La grâce, c'est le Père qui donne le Fils pour moi alors que je ne suis pas digne de recevoir ce don gratuit. La grâce, c'est la raison pour laquelle je peux prier. C'est la raison pour laquelle je peux comprendre la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle l'Église existe. C'est la grâce. Donc ce n'est pas un sujet parmi d'autres. Et vous savez, des fois avec les années, tous ces sujets simples comme la grâce, la foi, dont on a l'habitude, l'amour de Dieu, ça devient comme des sujets secondaires. On aime les révélations croustillantes, on aime les mots en grec un peu décortiqués, on aime les choses cachées, un peu réservées à une élite. Et pourtant, je veux vous le dire avec beaucoup d'amour, frères et sœurs, si tu ne comprends pas la grâce de Dieu, tu ne comprends rien. Si tu n'es pas dans la grâce de Dieu, tu es en train de sortir et d'entrer dans un plan qui est un plan de la chair, un plan de dureté, on va en parler ensemble, un plan où c'est le poids constant qui va t'écraser. Je veux lire pour vous un verset dès le début de ce message. On trouve ce verset dans Éphésiens, au chapitre 2, les versets 8 et 9. Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9. Je prie que le Saint-Esprit mette dans nos cœurs ce verset, qu'il l'imprime dans nos cœurs. Paul dit aux Éphésiens, « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Est-ce qu'on peut le dire ensemble ? « C'est par la grâce que nous sommes sauvés. » Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Je relis ce verset. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Dis à la personne à côté de toi, ça ne vient pas de toi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En fait, Paul écrit aux Éphésiens une chose très simple. Vous savez, l'épître aux Éphésiens, c'est un épître très riche. Par exemple, l'épître aux Éphésiens, c'est l'épître du combat spirituel. Et pourtant, Paul dit ici, attention, ne croyez pas que c'est par vos efforts que vous pouvez recevoir la grâce de Dieu, que la bénédiction de Dieu vient sur vous. Ce n'est pas connecté à vos efforts, afin que vous ne puissiez pas vous en vanter, afin que vous ne puissiez pas alimenter votre orgueil. Non, c'est un don de Dieu. La grâce, c'est gratuit. La grâce, elle se reçoit. Elle ne se gagne pas. La grâce, c'est une révélation spirituelle qui va changer ma vie avec Dieu pour toujours. Il est dit ceci, dans l'épître aux Galates, et j'aimerais qu'on aille vraiment au cœur de ce message à partir de ce texte des Galates. Il est dit ceci dans l'épître aux Galates, au chapitre 3, versets 1 et 2. Paul parle et il va dire aux Galates, Galates dépourvus de sens. Qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou est-ce par la prédication de la foi ? Paul parle aux Galates et je ne sais pas Si vous aimez quand il y a quelqu'un qui vient vous parler de manière un peu audacieuse, mais là, Paul y vint. Et il leur dit littéralement, vous êtes dépourvus de sens. D'autres versions bibliques traduisent stupides. Donc, Paul est même provoquant, il leur rentre dedans. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en train de faire une chose folle. Et il leur dit, qui vous a fasciné ? Qui vous a, d'autres versions traduisent, qui vous a ensorcelé ? En fait, les Galates étaient tombés dans un piège. Ils étaient tombés dans une stratégie du diable, on va en parler dans quelques instants, mais qui les avait fait changer de position. Ils étaient toujours sauvés, mais ils étaient sortis de la grâce. Ils avaient, alors qu'ils étaient appelés à marcher par cette vie qui coule de la grâce, ils étaient rentrés dans une vie qui coule des efforts, qui coule de la loi, qui coule du mérite, de vouloir gagner la faveur de Dieu. Et Paul dit, vous êtes insensés. Parce que quand tu rentres dans une vie où tu veux gagner la faveur, tu perds la vie de liberté que Dieu veut te donner. Tu es appelé à être libre. Frères et sœurs, être chrétien, ce n'est pas changer d'esclavage. C'est passer de l'esclavage à la liberté. Je ne suis pas esclave du péché pour devenir esclave de normes chrétiennes. Je suis esclave du péché, Christ me libère pour que je sois dans la vraie liberté. La vraie liberté, et on va la définir ensemble. Paul dit, qui vous a ensorcelé ? L'expression signifie aussi qui vous a placé sous un charme ou qui vous a fasciné. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ? En fait, Paul nous dit une chose, c'est qu'il y a littéralement une stratégie du diable, et je veux le dire, il y a une stratégie du diable pour te faire perdre de vue la grâce, pour te faire perdre de vue que tout vient de la grâce, que ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de Jésus. Et en même temps, donc il dévoile un plan du diable, mais il utilise aussi un mot, être placé sous un charme ou être fasciné. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, mon frère, ma sœur, que dans ta vie, dans ma vie, il y a en nous une fascination pour la propre justice. Il y a une fascination pour essayer de gagner la faveur de Dieu. Nous sommes, en d'autres mots, très très réactifs à la religiosité. L'être humain a cette capacité d'être attiré par les efforts pour plaire, être attiré par ce que la Bible définit comme la religion. Et je veux te dire aujourd'hui, nous sommes appelés à rester dans la grâce. Et je veux dire pour ma propre vie, je choisis de rester dans la grâce. Amen. Pourquoi il est important de rester dans la grâce ? On va le voir ensemble. Parce que quand je reste dans la grâce, je change de curseur, je change de fil d'aplomb. En réalité, l'équilibre de ma vie est totalement transformé. Quand je marche dans la grâce, je fais de Dieu, je fais de Jésus le centre. Quand je marche dans la grâce, je suis capable de dire, ce n'est pas moi, c'est lui. Mais quand je ne marche plus dans la grâce, le curseur devient moi, je deviens le héros de ma propre vie, je deviens celui de qui tout dépend. Et je veux te le dire, si ta vie dépend de toi, eh bien, tu es en grand danger. Parce que tu ne feras jamais assez de choses chrétiennes pour plaire à Dieu. Et la Bible nous le définit, on l'a lu tellement de manière magnifique, mais dès qu'une once de mérite vient s'introduire dans ma relation avec Dieu, je suis déjà en train de sortir de la grâce. Donc je dois apprendre à rester là, à rester dans cet endroit où je sais que ce n'est pas ma sainteté qui me permet de m'approcher de Dieu, mais c'est son sacrifice qui me permet de m'approcher de Dieu. Je veux répéter ça, simple, vous le savez, je le sais que vous le savez, mais c'est tellement évident, ce n'est pas ma sainteté qui me permet de m'approcher de Dieu, mais c'est le sacrifice de Christ. Et dans le sacrifice de Christ, tu n'y es pour rien. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Le thermomètre n'est plus ma sainteté personnelle, mais son amour qui est total. Quand je change de curseur, je réalise à nouveau que c'est son amour. C'est son amour qui est parfait. C'est son amour qui est total. Vous savez, quand Jésus a dit à la croix, « J'ai tout accompli », voici la révélation du matin. Il a vraiment tout accompli. Il n'y a rien besoin de rajouter. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. On n'améliore pas plus le sacrifice. On n'améliore pas plus la porte qui a été ouverte. On n'améliore pas plus la puissance de la croix. On n'améliore pas plus l'autorité que Jésus nous donne. On ne l'améliore pas. Christ nous a tout donné. Tout est accompli à la croix. Regardez ce verset de l'Épître aux Romains. Romains chapitre 5, verset 8. Ce verset-là, frères et sœurs, c'est un verset qui m'a toujours fasciné. Et je prie que le Seigneur m'aide à vous le communiquer. Romains chapitre 5, verset 8. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, envers moi, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dieu prouve son amour envers moi. Comment ? Eh bien, quand j'étais encore un pécheur, Christ est mort pour moi. Le chemin du mérite a été brisé. Dans ce verset-là, on voit que le mérite n'a rien à voir parce que lorsque tu étais dans le péché, tu ne méritais pas que Jésus meure pour toi. Mais pourtant, Christ l'a fait. Quand tu étais encore pécheur, Christ est mort pour toi. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en tant que croyant, alors que je suis sauvé, Christ est encore mort pour moi. La grâce, la puissance de la grâce est toujours la même déversée sur ma vie. Je ne peux pas l'oublier. Je ne peux pas faire comme les Galates qui ont commencé par la grâce et qui ont poursuivi par l'effort. Tu peux, et je vais le dire dans quelques instants, tous tes efforts, s'il y en a, doivent être enracinés dans l'amour. Si ce sont tes efforts qui doivent te faire gagner l'amour, c'est que tu es dans la religiosité. Dieu prouve son amour pour nous. Nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça n'a rien à voir avec tes efforts ou ton mérite. Il y a une puissante tentation de vouloir mériter, de se sentir, je viens dans la présence de Dieu, ah, je me sens méritant aujourd'hui, j'ai bien prié. Je viens dans la présence de Dieu, ah, je me sens méritant aujourd'hui, j'ai été généreux. Je me sens méritant, j'ai pardonné. Je me sens méritant, je sors de 3 jours de jeûne. Alors là, Dieu m'aime plus qu'avant les 3 jours de jeûne. Il y a une puissante tentation de vouloir mériter. Et si je veux mériter, et quand ça t'arrive, parce que ça t'arrive et ça m'arrive, ces moments-là sont exclusivement connectés à l'orgueil. C'est parce que je veux alimenter mon orgueil que je veux mériter. En fait, je ne mérite pas pour Dieu, je mérite pour me sentir bien moi. J'ai fait des choses, pas pour Dieu en fait, pour moi, pour me sentir méritant. Et c'est exactement la faute que le diable a commis. La Bible nous dépeint le diable comme étant l'ange le plus élevé. Et il était là, il vivait dans la présence de Dieu, il vivait dans la paix, l'amour, la joie absolue. Mais la Bible dit qu'à un moment donné, Satan va s'élever en son cœur, il va regarder sa splendeur, il va dire « je mérite d'être l'égal de Dieu ». Et dans son cœur, cette pensée méritoire, cet orgueil qui était là, l'a fait tomber du ciel, l'a fait être chassé du ciel. Et je veux te dire que lorsque tu es toi aussi dans une vie méritoire, tu perds ta position. Tu n'es pas chassé du salut, mais tu es chassé de cet environnement céleste dans lequel tu peux vivre une vie de paix, de joie, de grâce, de bénédiction, dans laquelle tu reçois et où tu donnes. C'est spirituel. La religiosité, qu'est-ce que c'est ? C'est soumettre l'amour de Dieu pour moi au mérite. Je me sens aimé parce que je le mérite. Alors je sais qu'on ne le dit pas comme ça, mais parfois c'est très subtil. Vous savez, ces moments où tu as passé une journée un peu compliquée, je sais que ça ne vous arrive pas à vous, mais bon, moi ça m'arrive des fois. Tu as passé une journée un peu compliquée, ou peut-être même avant de venir à la célébration, tu t'es un peu embrouillé avec ton époux ou ton épouse. Bon, ça, je sais que c'est un exemple abstrait, ça arrive à personne, ça. Mais vous savez, on arrive et puis on se sent comme s'il y avait de la distance entre Dieu et nous. On se sent pas comme si il fallait qu'on passe par un petit chemin de croix pour se sentir accepté dans la présence de Dieu. Je veux te dire que ça, là, cette sensation, c'est la sensation de mériter. C'est cette chose en toi qui fait que tu peux basculer facilement dans la religiosité. La religiosité, c'est soumettre l'amour de Dieu au mérite. Vous savez, Dieu, lui, est éternel. La Bible dit, quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Si je devais vous définir l'éternité, ça veut dire que Dieu en ce moment, et hier, maintenant et demain, Dieu évolue seulement dans un seul temps, c'est le présent. C'est le présent. Donc, le jour où il rencontre ma vie, le jour où je me convertis, pour moi, je me suis converti à telle date. Et chaque jour, je marche avec Dieu. Mais pour Dieu, Il y a un seul jour, le jour de ta conversion, c'est le même jour qu'aujourd'hui, et c'est le même jour que ta mort, et c'est le même jour que ta naissance. Est-ce que vous êtes avec moi ? Je sais que ça allait bien jusque-là, mais ça va aller. C'est le même jour. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le jour où je donne ma vie à Dieu, dans ce jour-là, Dieu voit tout d'un coup. En fait, il voyait déjà tout avant. Mais il sait toutes mes chutes, tous mes exploits, toutes mes défaites, tous les moments où je vais être incroyable pour Dieu et les moments où je vais être pitoyable vis-à-vis de Dieu. Et pourtant, la Bible dit que, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour toi dans tes grandes journées de victoire et dans tes profondes journées de défaite. Christ est mort pour toi, même quand tu es en feu pour Jésus et quand tu es tiède, voire froid pour Jésus. Christ est mort pour toi quand même. Si c'était méritoire, alors le premier jour de ma conversion, Dieu ferait le bilan et dirait « Bon, il va trop pécher par rapport à sa sainteté, je ne l'accepte pas dans ma présence. » Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Je peux apprendre à rester dans la grâce. Et quand je reste dans la grâce, d'ailleurs, je comprends ce qu'est la véritable repentance. Vous savez, se repentir, ce n'est pas juste de demander pardon. Se repentir, c'est reconnaître que je n'y arrive pas. Se repentir, c'est reconnaître que j'ai besoin de Dieu. Se repentir, c'est comprendre l'essence même de la grâce. Ce n'est pas un mot négatif, la repentance. La repentance, c'est un mot joyeux, c'est un mot de liberté, c'est un mot de victoire. Quand tu te repens, tu retournes dans la victoire. Ce n'est pas un mot, de punition. Au contraire, celui qui se repent revient dans la grâce. C'est bon de se repentir. Dis à la personne à côté de toi, j'aime quand tu te repens. Et toi, tu peux lui répondre, ben toi aussi. Mais c'est tellement puissant et vrai. Quand je réalise ça, quand je me repens, je retourne dans la grâce. Je me reconnais, Seigneur, que j'arrive pas. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que je veux te laisser la place sur le trône de ma vie. C'est ça la grâce. Ce n'est pas « je dois laisser la place », c'est « je reconnais et je suis joyeux de te laisser la place ». Merci pour la grâce. Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous êtes là ? Tellement puissant cette vérité. Rester dans la grâce change le curseur, premièrement. Deuxième chose que je veux partager avec vous, seuls ceux qui restent dans la grâce peuvent rester debout. Seuls ceux qui restent dans la grâce peuvent rester debout. Je lis pour vous ce verset, et j'en discutais avant le début de cette célébration avec Marc. Peut-être j'avais pas le choix, il n'y a que lui ici. Mais en tout cas, on en parlait ensemble. Mais ce verset que je vais lire pour vous de 2 Corinthiens, pour moi, c'est une révélation. Je l'ai lu des dizaines de fois, mais alors que je priais pour nous ce matin, c'est comme devenu une évidence, c'est sorti de ma Bible pour me heurter. Vous voyez ces moments-là ? C'est comme si Dieu me disait, il faut que tu comprennes quelque chose. Regardez, 2 Corinthiens 12, 9. Il m'a dit, donc Paul parle, ma grâce te suffit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je veux juste vous remettre dans le contexte. L'homme qui dit ça, Paul, est dans la dernière partie de son ministère. Lorsque Paul dit ça, vous savez, quand vous lisez les épîtres de Paul, vous découvrez un homme qui est vigoureux. C'est un homme qui envoie, quoi. C'est un homme de prière, c'est un homme qui prêche toute la nuit, c'est un homme qui parcourt des kilomètres, des dizaines, des centaines de kilomètres pour annoncer Christ. C'est un homme qui en fait beaucoup pour Dieu, c'est un homme volontaire. Un homme, si on devait ajouter un par un ses exploits, ses efforts, ses mérites, on dirait, mais waouh, l'apôtre Paul. Et là, d'un coup, Christ vient, on est dans la dernière partie de son ministère et on sait que les théologiens ne sont pas tous d'accord sur à quoi faisait face Paul. Certains disent qu'il avait beaucoup d'opposition, d'autres disent qu'il était malade, qu'importe. Mais une chose est sûre, c'est qu'à un moment donné, sa situation fait qu'il est devant un blocage. Ses efforts ne suffisent plus, sa volonté ne suffit plus, son courage ne suffit plus. L'apôtre Paul, avec son doctorat de théologie, de philosophie, ne suffit plus. Toute son énergie d'homme ne suffit plus. Et là, Jésus vient lui faire une révélation incroyable. Il lui dit, « Ma grâce te suffit. » Boum. Paul, calme-toi. C'est génial tout ce que tu fais pour moi, mais je veux t'apprendre quelque chose d'encore plus grand. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Waouh ! Chaque fois que je réalise que je suis faible, chaque fois que je réalise que ça n'a rien à voir avec moi, mais c'est lui, je donne à Dieu l'opportunité de m'étonner par sa puissance. Chaque fois que je suis capable de dire « Seigneur, j'ai échoué, je n'arrive pas, je suis bloqué, je ne suis pas suffisant », eh bien Dieu, voilà l'opportunité de te faire vivre des dimensions plus grandes de sa puissance. Vous savez, parfois nous, on veut la gagner, la puissance, on prie pour la puissance. On fait des bras de fer avec Dieu. On veut gagner le bras de fer pour qu'il nous donne sa puissance. Mais là, Christ révèle quelque chose à Paul. Il lui dit, Paul, si tu veux vivre une autre dimension de ma puissance, apprends à accepter que ma grâce te suffit. Et je veux te le dire, mon frère, ma sœur, qu'importe où tu en es aujourd'hui, une seule chose est suffisante, sa grâce. La grâce de Dieu est suffisante. Elle est suffisante pour me permettre de rester debout. Elle est suffisante pour me permettre de voir ma famille se convertir. Elle est suffisante pour être guéri de ma maladie. La grâce de Dieu est suffisante pour que de l'eau jaillisse d'un rocher. La grâce de Dieu est suffisante pour que je traverse la mer Rouge à pied sec. La grâce de Dieu est suffisante pour que tu sois peut-être comme Pierre qui a renié Jésus et qui, quelques jours après, est capable de prêcher aux autres en disant « Vous avez renié Jésus !» On pourrait dire « Quel culot !» Non, c'est la grâce, ça. La religiosité ne peut pas comprendre la grâce. La religiosité est même choquée par la grâce. La grâce de Dieu. Ma force, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. La grâce est suffisante. Et quand je comprends ça, je comprends donc que dans n'importe quelle saison de ma vie, le ciel est ouvert de la même manière. Tu dois comprendre quelque chose, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas parce que des fois tu sens le ciel ouvert que le ciel se ferme quand tu ne le sens plus. Ce n'est pas parce que tu sens la présence de Dieu que Dieu n'est pas là quand tu ne le sens pas. La grâce, c'est Christ qui nous a fait une promesse. Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Dis à la personne à côté de toi, Jésus est avec moi tous les jours. Il est avec moi tous les jours. Vous savez, quand on passe par une saison compliquée, quand on a péché, quand on a diminué en spiritualité, la première des pensées qui va venir, c'est cette pensée méritoire, c'est ce piège dans lequel sont tombés les Galates, c'est cette attaque insidieuse de l'ennemi, c'est de dire mais tu es en train, c'est cette pensée qui vient nous faire croire que nous pouvons perdre l'amour de Dieu, perdre la puissance du sacrifice de Jésus. Et quand j'ai cette pensée qui vient en moi, je deviens fragile. D'ailleurs, c'est un cercle vicieux, c'est que je prie moins, donc je me sens coupable, et comme je me sens coupable, je prie moins. Et c'est un cercle insidieux qui me pousse vers le bas, ça vous est déjà arrivé à moi aussi. Mais quand je reste dans la grâce, quand je comprends que la grâce de Dieu s'accomplit même dans ma faiblesse, quand je comprends qu'en fait, Dieu m'aime en toute saison, son amour m'accompagne en toute saison, et qu'il est là, eh bien, ça me donne une force. Pourquoi ? Parce que je suis fort, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de lui. Je suis au fond du trou, mais je sais qu'il est là. Et parce que je sais qu'il est là, je suis fort. Je suis dans un désert abandonné de tous, mais je sais qu'il est là. Et je sais que son amour ne varie pas. Je suis sous un ciel ouvert, Jésus est mort pour moi, je suis dans la grâce, je suis fort. Le diable ne supporte pas ceux qui restent dans la grâce. Je vais te dire une chose, Jésus a donné une parabole. Il a dit que nos vies sont comme une maison. Nos vies sont comme une maison. Et il y a un homme fort qui y habite. Mais il y a un homme plus fort encore qui arrive et qui est capable de lier cet homme fort afin que la maison soit débarrassée de celui qui l'habitait. Et je veux te dire que Jésus, lorsqu'il a tout donné à la croix pour nous, il est venu et il a lié l'homme fort. Il a lié le péché, il a lié les combats, il a lié tout ça. La maison maintenant, elle est mise en place. Mais des fois, le diable revient et quand il ouvre la porte, qui voit en train de sur le trône, il ne voit pas Jésus, il te voit toi. Et quand c'est toi, quand c'est ton mérite, tu es fragile. tu n'es pas loin de sombrer quand c'est par tes propres forces. Vous savez, Asaph a dit dans le psaume 73 quelque chose d'incroyable. Psaume 73, Asaph dit, quand je regardais le sort des méchants, quand je regardais, il dit, même les méchants, j'ai l'impression que tout leur réussit. Il dit, ah, c'est compliqué. Les choses étaient compliquées à mes yeux. Je ne comprenais pas pourquoi. Alors que moi, et même il va dire, est-ce en vain que j'ai purifié mes mains? Donc il est en train d'être dans un dialogue méritoire avec Dieu. Il dit, regarde, mais Seigneur, je purifie mes mains, mais eux, ils ont plus de réussite que moi. Et d'un coup, Asaph dit, jusqu'à ce que je pénètre dans la présence de Dieu. Waouh! Et d'un coup, tout est devenu évident. C'est que Dieu est avec moi. Dieu est pour moi. Sa grâce m'entoure. Du 1er janvier au 31 décembre, Jésus est avec toi. Il n'y a aucune journée où tu es abandonné. Il n'y a aucun moment où tu es délaissé. Il n'y a aucun moment où la grâce s'arrête. Il n'y a rien qui puisse empêcher la grâce de Dieu de couler sur ta vie. Quelle puissante réalité! Quand je ne comprends plus la grâce, je deviens fragile. Quand je suis le centre de ma propre vie, je deviens fragile. Il faut que ce soit Jésus le centre. Regardez ce qu'il est dit dans Hébreux 4, au verset 16. Okay, ça, c'est un verset, frères et sœurs, c'est un verset magnifique. Approchons-nous donc, avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Approchons-nous donc avec assurance. Voilà la réalité de celui qui marche dans la grâce de Dieu. Je m'approche de mon Dieu avec assurance. C'est totalement incompréhensible pour la religiosité. L'homme religieux est choqué par la liberté d'un enfant de Dieu qui marche dans la grâce. Même un enfant de Dieu qui est sorti de la grâce et qui marche dans les règles, dans les obligations, dans le « je dois », eh bien, il est choqué par la liberté du chrétien, de son frère qui vit dans la grâce. Parce que celui qui est dans la grâce est réellement libre. Il est libre. Ce n'est pas connecté à lui, c'est connecté à ce que Jésus a fait. Ce n'est pas connecté à mes efforts, c'est connecté à ce que Jésus a fait. Vous savez, lorsque Pierre et Jean sont montés au temple dans Actes 3, ils sont montés et la Bible dit qu'ils ont vu cet homme à l'entrée du temple. Et alors qu'ils voient cet homme à l'entrée du temple, ils vont le regarder. Et vous savez, ils vont dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Waouh, boum. Et plus tard, ils sont mis en accusation. Et alors qu'ils sont en accusation devant le tribunal des hommes religieux, Pierre dit quelque chose d'incroyable. Il va leur dire, ne croyez pas que c'est par notre piété que nous avons fait lever cet homme. C'est à cause de la foi dans le nom de Jésus. Pierre est en train de dire, ce n'est pas parce qu'on a prié beaucoup, ce n'est pas parce qu'on a fait des choses religieuses, ou on est allé faire des pèlerinages, je ne sais pas où. Il va dire une chose simple, il va dire, ce n'est pas à cause de ma piété, c'est à cause du nom de Jésus. C'est à cause de la grâce qui a été libérée. La grâce, c'est la réalité du croyant. Et pour rentrer dans cette grâce, je dois activer ma foi. La grâce, c'est ma réalité en tant que croyant. Je suis libre. Je ne me laisserai plus asservir. Je suis libre. Amen. Donc la première chose qu'on a vue ensemble, toute simple, c'est que quand je suis dans la grâce, je change de curseur. Ce n'est plus moi, c'est Jésus. Quand je reste dans la grâce, je peux rester debout. La troisième chose que je partage avec vous, rester dans la grâce, c'est marcher avec Dieu. Et je suis à la fin. J'arrive à la fin du message. On va s'arrêter dans quelques instants. Rester dans la grâce, c'est marcher avec Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, de la part du Seigneur, vous rappeler cette vérité. La vraie sainteté provient de la grâce. La vraie sainteté provient de la grâce. Et je vais lire juste pour vous des versets, pour que la parole de Dieu change nos mentalités, fasse tomber les forteresses. Je crois que la parole de Dieu est puissante pour nous libérer. Regardez ce qu'il est dit dans Tite, chapitre 2, versets 11 et 12. « En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tout homme, a été révélée. » Il parle de la grâce. « Elle nous enseigne, la grâce nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie, aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. » Je lis pour vous un autre verset. Romains, chapitre 6, verset 14. « En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. » Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ces versets m'apprennent? Lorsque je reviens dans la grâce, qu'est-ce qui se passe quand je suis dans ce chemin de la religiosité et du mérite? Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme si la Bible nous dépeignait deux chemins de vie chrétienne. Je ne parle pas d'être non-chrétien, je parle de deux chemins de vie chrétienne, deux réalités dans lesquelles nous pouvons être si nous ne faisons pas attention de rester dans la grâce. Il y a deux chemins vers la sainteté qui sont devant nous, chacun de nous. Le premier chemin, c'est le chemin de l'obligation. Le deuxième chemin, c'est le chemin de l'amour. Rappelez-vous, on l'a lu ensemble il y a quelques instants, Paul dit à Tite, la grâce de Dieu sort source de salut pour tout homme a été révélée. Et voici ce que cette grâce nous enseigne. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie, aux convoitises. Et elle nous apprend à marcher dans la sagesse, la justice, la piété. Le problème, quand tu vis une vie par l'obligation, c'est que tu dis, je dois renoncer aux choses impies. Et c'est toi qui vas faire des efforts pour rentrer dans ce renoncement. Alors que Paul dit à Tite, la grâce nous enseigne. C'est la grâce qui m'enseigne à renoncer. Et c'est ce que Paul dit aussi aux Romains. Il dit, vous êtes sous la loi de la grâce. À cause de ça, le péché n'a plus de pouvoir pour vous. En d'autres mots, qu'est-ce que ça signifie? C'est que la religion ouvre la porte de l'effort, alors que la grâce ouvre la porte de l'amour. La religion, c'est faire des efforts pour se sentir aimé. C'est faire des efforts pour satisfaire Dieu. Alors que la grâce, c'est je pose des actes parce que je me sens aimé. Est-ce que vous voyez la différence? La religion, c'est je fais des choses parce que le regard inquisiteur de Dieu est sur ma vie et je sais que au moindre faux pas, le jugement tombe. La grâce, c'est je me sais aimé. Et parce que je me sais aimé, ça me pousse à faire des choses. Et comprenez, ça n'a rien à voir. D'un côté, c'est moi qui dois trouver en moi-même les forces pour essayer d'accomplir une sainteté qui est totalement impossible d'accomplir. De l'autre côté, c'est je puise dans son amour, je puise dans sa grâce, et je suis tellement débordant que ça me pousse à changer mes actes, et qu'il y a même des convoitises qui disparaissent de ma vie, et qu'il y a une générosité que je ne comprends pas qui va commencer à naître, un pardon qui va commencer à naître, parce que ça s'enracine dans la grâce, la sainteté que Dieu veut pour nos vies. S'enracine dans sa grâce et dans son amour. Parce que je me sais aimé, alors je pose des actes. Vous savez ça, c'est tellement différent. La vie dans la grâce et la vie dans la religiosité. La vie dans la grâce, je suis libre. La vie dans la religion, c'est je dois et je suis écrasé et je me sens jamais aimé. Je termine par ça. Quatrième chose. La grâce m'ouvre la connaissance de qui est réellement Christ. Je lis pour vous ce simple verset dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Voici ce que Pierre va dire. « Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur. Pierre connecte le fait d'être dans la grâce et de grandir dans cette compréhension de la grâce avec le fait que quand je grandis dans la compréhension de la grâce, je me donne l'opportunité d'avoir une connaissance plus profonde de qui Jésus est. Pourquoi? Parce que la grâce, littéralement, c'est le déversement du cœur de Christ. Si tu veux connaître Jésus, tu peux lire la parole, c'est important. Tu peux écouter des messages, c'est important. Mais quand j'ai la grâce, je comprends ce que je lis. Je comprends ce qui est dit. Je vais même aller plus loin. Si tu veux apprendre à entendre Dieu plus dans ta vie, tu veux que le Saint-Esprit te donne des orientations, tu veux entendre la voix de Dieu, eh bien tu peux passer ta vie à chercher la voix de Dieu. Ou alors tu peux passer ta vie à poursuivre le cœur de Dieu. Et quand je poursuis le cœur de Dieu, quand je vais plus profondément dans sa grâce, je comprends qui Dieu est. Et parce que je comprends qui Dieu est, je comprends ce qu'il dit. Est-ce que vous savez que c'est autant important les mots que le ton de la voix? Par exemple, je peux dire à mon enfant « range ta chambre » ou je peux lui dire « range ta chambre ». Pas pareil, c'est les mêmes mots. mais le ton, la personne qui va dire la chose, ça change complètement ma compréhension. Par exemple, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, quelqu'un que vous connaissez bien va faire quelque chose que vous ne comprenez pas. Et vous vous dites, ben pourquoi il a fait ça? Mais parce que vous l'aimez, parce que vous connaissez son cœur et que vous savez qu'il vous aime, eh bien, vous allez vous dire, bon, j'ai pas compris, mais je sais qu'il m'aime. C'est ça qui est important. Mais si je ne suis pas sûr de l'amour de la personne, si je pense qu'il ne m'aime pas et qu'il fait quelque chose que je ne comprends pas, je vais soupçonner le mal. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Eh bien, je vais te dire une chose, lorsque tu grandis dans la grâce, tu grandis dans la compréhension de qui Dieu est, tu grandis dans la connaissance de Christ. Je termine, je sais que ça fait 3 fois que je termine, 4 fois même, mais je termine pour de vrai. Les religieux ne pouvaient pas supporter Christ. Pourquoi ? Et ils étaient fous, littéralement fous, quand ils ont vu les disciples. Parce qu'ils disaient, c'est des gens du peuple sans instruction. En d'autres mots, ils ne comprenaient pas comment des gens, et d'ailleurs, à certains, ils vont dire, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Pourquoi ? Parce que eux, ils connaissaient la Bible par cœur. Ils passaient des heures à prier. Ils faisaient plein de choses pour Dieu. Ils connaissaient la voix de Dieu, mais ne savaient pas ce que ça voulait dire. Parce que si tu ne connais pas le cœur de Dieu, tu ne peux pas comprendre ce qu'il te dit. Et lorsque je grandis dans la grâce, c'est ce que Pierre enseigne ici, quand je grandis dans la grâce, je grandis dans la connaissance de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que je sais qu'il est avec moi, il est pour moi. Et à cause de ça, je comprends ce que Dieu veut me dire, je comprends les saisons de ma vie, je comprends sa fidélité. Amen. Frères et sœurs, on arrive à la fin et je veux vraiment que vous ayez un temps dans vos groupes de maison. Je sais que tous les responsables d'église de maison, vous allez prendre le moment. Je crois qu'il est important peut-être d'avoir un temps de prière derrière ce moment. Ça peut même être un temps de prière pour les uns, pour les autres, pour quelqu'un ou qu'importe. Mais je crois que ce message, c'est un challenge pour nous tous. Ce choix est devant moi chaque jour. Je peux choisir la grâce ou le mérite. Je peux choisir la grâce ou la religiosité. Et dans cette série, je prie que nous puissions être ancrés dans la grâce. Parce que tout ce que nous allons dire dans les messages, nous ne le comprendrons pas réellement si nous n'avons pas cette compréhension profonde de la grâce de Dieu. Alors simplement, j'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux là où on est, là où tu es, dans le salon, avec tes frères et sœurs à côté, chacun de nous, on ferme nos yeux là où nous sommes et j'aimerais juste prier. Je veux prier et aussi donner l'opportunité à quelqu'un de prendre cette décision. Je le crois, peut-être que tu es dans cette vie méritoire qui t'écrase. Tu es dans cette vie méritoire qui t'empêche d'être heureuse. Tu n'es pas heureuse dans ta vie chrétienne, tu n'es pas heureux. Pourquoi ? Parce que tu marches dans le mérite, tu as l'impression que tu ne satisfais jamais assez, tu as l'impression que tu n'es pas un assez bon chrétien. Et je veux te dire ce matin, il est temps de sortir de ce piège de l'ennemi et de revenir. Je choisis de revenir dans la grâce. La réalité, c'est que Jésus a donné sa vie pour toi. La réalité, c'est qu'il est avec toi. La réalité, c'est que Dieu t'aime ni plus ni moins qu'hier. La réalité, c'est qu'il te garde dans sa main. La réalité, c'est qu'il a déclaré « Je serai tous les jours avec toi jusqu'à la fin du monde ». Voilà la réalité. Et c'est à partir de cette réalité que j'entre dans la présence de Dieu. Et je dis merci Jésus pour la grâce. Alors peut-être ce matin, c'est un bon matin pour faire tomber la religiosité qui t'écrase. Ce matin, c'est un bon matin pour peut-être laisser le Saint-Esprit changer ta mentalité. Je ne veux plus penser comme ça, Seigneur. Peut-être même qu'on m'a enseigné à penser comme ça, mais je veux penser en termes de grâce et de liberté. Je veux que ma sainteté ne soit pas une suite d'efforts. Je veux que ma sainteté soit l'élan de mon cœur qui se sait aimé, qui sait que ta présence est avec moi. Merci pour la grâce de Dieu. Merci pour la grâce qui n'a ni limite, ni commencement et ni fin. La grâce de Dieu n'a pas de profondeur. La grâce de Dieu a une hauteur infinie. La grâce de Dieu ne dit jamais stop. La grâce de Dieu ne dit jamais c'est assez. La grâce de Dieu n'abandonne jamais. Et cette grâce-là, Dieu nous l'a donné. C'est ma réalité. Et quand l'ennemi vient, parce qu'il vient t'agresser, te dire regarde ta journée, comment elle a été, regarde ton manque de patience avec un tel, regarde ton manque de prière, de piété, regarde, tu peux dire à l'ennemi,
Alors que j'étais encore un pécheur, Christ est mort pour moi. Le jour où il a pris ma vie, il connaissait d'avance toutes mes imperfections, mes chutes, mes grandes journées ou mes petites, mes victoires et mes défaites, et il m'a aimé quand même. Alors Seigneur, peut-être qu'en ce moment, je ne suis pas au top, mais je sais que la repentance m'appartient. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que je n'y arrive pas. Peut-être c'est bon pour quelqu'un ce matin de se repentir. Ce n'est pas négatif, c'est tellement la liberté, la repentance. Merci Jésus d'avoir donné ta vie pour moi. J'ai besoin de toi. Peut-être quelqu'un va se repentir pour la première fois. Tu peux te repentir avec tes mots. Ce n'est pas la liste de tout ce que tu as fait de mal qui est important. Seigneur, je te demande pardon parce que je reconnais que je suis vide sans toi. Dans le nom de Jésus. Amen et amen et amen.